Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à l'ouvrage Les chemins du communisme libertaire en Espagne, 1868-1937, et L'anarchisme devint espagnol. Avec l'auteur, Myrtille des Jiménologues, également co-auteur de Les fils de la nuit, souvenirs de la guerre d'Espagne, avec Antoine Jimenez, paru une première fois aux éditions L'Insomniaque en 2006 et une deuxième fois aux éditions Libertalia en 2016, et également auteur de A Zaragoza o al Charco, souvenir de protagonistes libertaires, Aragon 1936-1938, et qui est paru aux éditions L'Insomniaque en 2016. Alors nous avons déjà effectué une émission en sa compagnie au sujet de l'histoire de la Révolution espagnole, de 1936 à 1938-39, Et donc on renvoie à cette émission pour un panorama plus large. Aujourd'hui, nous nous concentrerons exclusivement sur son dernier ouvrage, donc « Et l'anarchisme devint espagnol 1868-1910 », qui raconte donc l'histoire de l'anarchisme, du communisme libertaire comme projet de société, et aussi des luttes sociales en Espagne, du milieu du XIXe siècle, à la fondation du syndicat anarchiste CNT en 1910. On s'arrêtera donc en 1910, et évidemment quand le deuxième tome, puisque là il s'agit d'un premier volume des chemins du communisme libertaire en Espagne, et lorsque le deuxième tome sortira, évidemment on refera une émission pour compléter donc l'histoire qu'on va aborder aujourd'hui. Donc bonjour Myrtille.
Salut.
Alors voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette riche histoire et peut-être même avant nous expliquer d'où vient donc ce livre et pourquoi est-ce que tu t'es intéressé évidemment, tu t'es d'abord intéressé quand même à l'histoire de la Révolution espagnole. Pourquoi est-ce que tu as ressenti à un moment le besoin de revenir longtemps en arrière, de faire une histoire un peu plus longue de la Révolution espagnole?
Oui, et puis de revenir surtout sur quelques fondamentaux de cette histoire, de cette lutte sociale, de ce mouvement qui a surgi, qui a pris une importance inédite dans un pays européen, ou anarchiste en Espagne. C'est un processus qui recouvre des classes populaires rurales, urbaines, et se chiffre par plus de millions, un million et autres, et bien plus, ça concerne un million et plus de personnes, hommes, femmes, je dirais même enfants, puisque des jeunes à cette époque-là, ils travaillaient, des fois à 11-12 ans, ils étaient à l'usine, affiliés à un syndicat et participaient à toutes les bagarres. Donc c'est un mouvement extrêmement puissant qui a laissé une marque profonde, même encore aujourd'hui dans ce pays. Et à force de fréquenter tous ces rescapés de cette histoire-là, soit à travers des récits de gens disparus comme Antoine Jiménez ou des gens qu'on a rencontrés encore après 2006, on s'est dit que ça valait la peine d'approfondir ce projet qui luisait encore dans leurs yeux quand ils en parlaient, qui les avait profondément émus et dont ils estimaient que s'ils avaient été vaincus dans cette guerre civile qui était une guerre sociale, eux, au moins, ils avaient tenté quelque chose, une expérience à dimension assez importante une expérience sociale qui les animait encore au moment où ils nous parlaient. Donc, à l'origine, je rappelle quand même que les éditions Divergence m'avaient demandé de rééditer une petite brochure, qui était à la base d'un article que j'avais écrit en 2012, qui était publié dans la revue Sortir de l'économie, et qui s'appelait « De la lucha por Barcelona a el elogio del trabajo », l'anticapitalisme des anarchistes et anarcho-syndicalistes espagnols des années 30. Il était question de... Il y avait déjà une petite brochure que la Sociale de Montréal avait publiée l'an dernier, qui circulait à très peu d'exemplaires, dont les éditions Divergence me demandaient de la reprendre sous forme de petit livre. Et à partir de l'origine de cet article, de cette brochure, en fait, c'est deux questions que je me suis posées au fil de mes travaux. Comment se fait-il que ce projet communiste libertaire, qui était si fort, si puissant à l'Espagne dans les années 30, qui avait été consacré par la motion votée lors du congrès de Saragosse en mai 36, comment se fait-il que ce projet, après le 19 juillet 36, quand effectivement la riposte au coup d'État des vieilles classes possédantes espagnoles a réussi dans une grande partie d'Espagne, et ce à quoi le mouvement libertaire a participé essentiellement, pourquoi il y a une dissociation qui se fait au sein de ce mouvement, concrète, pratiquement, peut-être pas forcément visible, discutée sur le moment, entre une partie de ce mouvement CNT-FAI, il faut bien relier toujours le mouvement CNT-FAI, pourquoi une partie dit qu'on va repousser le communisme libertaire un peu plus tard, et pourquoi une autre qui concerne au moins autant de monde, sinon plus, au sein de ce même mouvement, qui touche tant des militants que d'une base, elle se lance dans un processus communiste libertaire sans attendre la bonne consigne. De toute façon, ça ne se faisait pas, il n'y avait pas besoin de consigne. Une bonne partie du mouvement s'était emparée de ce projet. Donc déjà une question qui s'est posée. Et une deuxième question qui s'est imposée à moi, c'est à partir du bouquin de Michael Syman, « Ouvrier contre le travail à Paris et à Barcelone » en 1936. Pourquoi entre fin 1936 et tout 1937, on observe au sein des usines barcelonaises un mouvement de, comment dire, une indiscipline au travail, un mouvement de mécontentement à l'intérieur des usines, sur le mode que les ouvriers avaient toujours utilisé vis-à-vis des patrons, mais là vis-à-vis des syndicats. Parce qu'il faut rappeler qu'en 1936-1937, ce sont la CNT et l'URT qui gèrent en gros les usines, mais en relation avec un État qui n'est pas du tout aboli. Il faut rappeler qu'en 19 juillet 1936, les anarchistes sont maîtres absolus, quasiment absolus de la Catalogne, et de Barcelone en particulier. Ils auraient très bien pu dissoudre la Généralité de Catalogne, qui est un gouvernement régional, et procéder au projet communiste libertaire, à la mise en place d'un processus dans lequel normalement l'État n'avait plus sa place. L'État, non seulement l'État est maintenu, au nom de circonstances qui faisaient qu'on ne pouvait pas peut-être agir comme ça, pour des raisons de tactique qu'on évoquerait une autre fois. Mais en tout cas, à ce moment-là, l'État est toujours présent, les banques sont toujours aux mains de l'État, donc il y a un processus de collectivisation qui commence dans les usines, mais qui est géré par les syndicats, mais en relation avec le bon vouloir d'un État qui draine la finance. Je voulais me pencher sur si une partie des ouvriers des usines de Barcelone recommence à réclamer des choses, à protester sur les conditions de travail, etc. Est-ce que c'est le signe d'un mécontentement lié à cet abandon, à cette auto-limitation révolutionnaire? Ou est-ce que ça rejoint, comme le suggère Syman, ça rejoint la profondeur du refus du travail inhérente au mouvement ouvrier depuis le début de la généralisation du salariat? Ce que je crois aussi. Donc il peut y avoir un mélange des deux. On exprime par là la satisfaction par rapport à un projet qui n'est plus en route. Et de toute façon, la question du travail et du refus du travail inhérente au développement de la classe ouvrière, pour moi, se manifeste aussi là. Donc voilà, c'est deux questions que j'ai voulu traiter et que j'ai commencé à traiter dans cette petite brochure. Donc, me proposant de la reprendre... j'ai eu envie de revenir aussi sur ce concept de communisme libertaire, d'où il venait historiquement et théoriquement. Et là, je me suis embarquée dans la lecture de quelques trucs. J'ai repris le bouquin de Christine Ross sur l'imaginaire de la commune. En fait, je suis revenue sur... j'ai puisé dans un gros matériel qui a été produit à Barcelone par un jeune historien barcelonais et visiblement sympathisant anarchiste, qui a fait un gros travail sur l'apparition du premier groupe d'affinité d'un mouvement anarchiste à Barcelone. Dans les mêmes années où le projet de communiste libertaire commençait à se mettre en place au niveau de l'AIT. Donc j'ai eu un matériau tellement abondant qui m'a ramené au 19e siècle et aux prémices juste avant la création de la CNT, donc au premier mouvement anarchiste en Espagne, comment il se déploie, dans quelle région il se déploie particulièrement, sur quel thème et sur quelle stratégie, que voyant que rien que ce préambule commençait à prendre beaucoup de place, je me suis dit, on va faire plusieurs volumes, c'est peut-être mieux. Histoire de publier aussi ce livre déjà tout de suite. Donc voilà, c'est pour dire que le deuxième volume traitera, commencera réellement à aborder la fameuse brochure en question.
Et donc du coup, ça t'amène à revenir sur l'histoire, enfin plusieurs histoires finalement, l'histoire du communisme libertaire et du débat avec les collectivistes, qui à la base, l'anarchisme est collectiviste, de chacun selon... ses moyens à chacun selon ses œuvres, et puis après il va y avoir progressivement le mouvement anarchiste européen va basculer dans le communisme libertaire de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Il y a une deuxième histoire que tu racontes en passant mais que moi j'ai trouvé intéressante parce qu'elle est assez méconnue, c'est l'histoire des luttes en Espagne au 19e siècle et jusqu'en 1910, parce qu'on connaît un peu plus disons les luttes à partir du moment où elles sont portées par la CNT, mais on connaît moins cette histoire des luttes. Voilà, est-ce que tu pourrais donc parler de ces deux histoires conjointes ?
Voilà, c'est les années, il faut remonter aux années 1830-35, avec l'introduction dans le... Bon, pour rappeler, donc, l'Espagne est un pays où le capitalisme avance très très lentement, il y a une bourgeoisie très très peu dynamique, il y a peu de classes moyennes, il n'y a pas vraiment de libéralisme qui se développe. Dans les années 1830, 1850, 60, voient apparaître des conflits à l'intérieur du monde du travail, à partir, surtout de manière très très forte et très développée, à partir de l'introduction de machines dans le textile, des machines à vapeur, dont ce qu'on appelle les pratiques ludistes en Espagne vraiment se déploient grandement. En Andalousie, en Catalogne, en plusieurs endroits. Chaque fois qu'il y avait des manufactures, dès qu'on passait du stade salarié, ou à l'usage, à l'introduction de machines qui supprimaient des postes de travail, là, ça déclenche une fureur importante, à tel point que c'est même pas seulement les machines qui sont cassées, c'est l'usine qui cramait systématiquement. Donc, on voit plusieurs essais d'introduction de machines de fabricants espagnols qui sont ruinés en peu de temps, qui doivent recommencer tout. Et ça va jusqu'au point qu'en 1854, des ouvriers particulièrement organisés imposent une loi à l'État de voter une loi interdisant l'introduction de machines, qui votait en 1854, aux grandes dames des patrons. Et là, ça va recréer un rebasculement de l'autre côté. Le patronat va s'énerver, refaire la pression sur l'État, lequel va empoigner quelques meneurs des mouvements ouvriers, les criminaliser en leur mettant sur le dos un crime un peu sordide survenu dans un des quartiers, et en envoyant ce mec-là au garrot. Et un an après... On a, en 55, la première grande grève générale espagnole qui se passe à Barcelone, en riposte à cette situation-là. Et dans le cadre de cette grève, un dirigeant patronal important se fait tuer. Donc on a une combativité ouvrière importante, des passages à l'acte, à l'action directe, évident et systématique. Quand la grève ne marche pas, ben c'est l'émeute. C'est le sabotage, la destruction et le coup pour coup au niveau même des attentats individuels. Là, c'est des gens dans le milieu ouvrier, des gens qui, à titre individuel, décident de tuer, de venger en gros le copain qu'ils avaient envoyé à la potence juste avant. Donc, c'est une combativité vraiment très très forte qui se déploie. Mais c'est quasiment ce que je rappelle aussi dans ce livre, c'est que si on voit l'histoire sociale de l'Espagne, on assiste à des populations ouvrières et agricoles très très portées à l'émeute, au soulèvement. Et ça, ça date aussi de 1808, en gros, le soulèvement populaire contre les armées napoléoniennes. Et avec les brutalités, les exactions que cette armée avait produites, ça a provoqué des soulèvements populaires très forts. Donc pendant longtemps, ces soulèvements populaires apparaissent contre un ennemi particulier. Là, c'était les troupes d'Napoléon. Ensuite, c'est contre les conditions de travail, etc. Et se mêle plus ou moins à une sorte de républicanisme fédéraliste, c'est-à-dire un mouvement qui commence à disputer la place de la monarchie, qui va introduire une république, qui va introduire une sorte de libéralisme avec des droits, la politique, etc. etc. Et c'est d'ailleurs un des inspirateurs de ce mouvement qui s'appelle Pie Marga. Il s'est inspiré de Proudhon, lui-même de Proudhon. On voit tout un soubassement qui a pu à un moment donné intéresser les classes populaires en se disant peut-être qu'avec ces gens-là, on aurait une amélioration importante des conditions d'existence. Mais en 1873, lorsque la première république s'instaure, ces gens-là sont au pouvoir. Et là, la population se rend compte qu'ils n'ont aucun programme social, que si eux-mêmes, il y a un grand soulèvement à Alcoy, des ouvriers du papier, mais 10 000 ouvriers du papier qui se mettent en grève, hein. C'est un soulèvement massif. Et là, on envoie la mitraille, on envoie la répression, on envoie des ouvriers au garrot, on envoie des ouvriers en déportation dans les colonies, c'est comme d'hab, quoi. Donc, ils apprennent très vite en Espagne que le biais de la politique est un trompe-l'œil, que république ou monarchie, c'est pas dit que ça ne concerne pas forcément les classes populaires dans leur perspective, quoi. Donc, c'est en eux-mêmes qu'ils doivent chercher la manière d'attaquer un système et de construire un projet social.
Et puis ils ont aussi un autre contre-exemple, entre guillemets, même s'ils se sont solidarisés d'une certaine façon avec ce contre-exemple, c'est celui de la Commune de Paris, qui va aussi leur montrer que même lorsqu'il y a un soulèvement populaire, lorsque ce soulèvement populaire il en reste à une dimension politique, il est impitoyablement réprimé, et que donc c'est presque une anti-politique, il faut une révolution sociale anti-politique, qui promeut un bouleversement total des conditions d'existence, et pas simplement comme la Commune de Paris, la politique qui a, la Commune de Paris qui avait pas saisi l'argent de la Banque de France, qui n'avait pas vraiment aboli les rapports sociaux capitalistes. Eux, ils portent les classes populaires espagnoles, du moins celles qui se reconnaissent dans les idées anarchistes, vont se méfier à la fois de la République et à la fois d'une espèce d'anarchisme, d'insurrectionnalisme uniquement politique, quoi.
Oui, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que ces idées, donc ce substrat de classe populaire très prête à l'émeute, prête à se soulever de manière très puissante, qui ne fait pas dans la demi-mesure, qui est donc chez lesquels on voit rapidement un anticapitalisme, un anti-étatisme et un anticléricalisme très marqué, parce que dans les émeutes que j'évoque, c'est entrecoupé de destruction de couvents, d'églises, il y a un anticléricalisme extrêmement fort. Tous ces gens-là ont compris clairement où est l'ennemi. Entre les classes possédantes et les classes populaires, il n'y a presque rien au milieu, il n'y a pas de classe moyenne. Le choc est frontal. Les classes possédantes, grands propriétaires terriens, État, armée, Église, ne veulent jamais rien céder, mais pas vraiment rien du tout. Ce qui s'appelle, cette loi sur l'interdiction d'introduction des machines a été votée. Ils ont tout fait pour que ça soit rétabli, puis on n'en parle plus. Donc, ce choc est frontal, ce soubassement en 1868-1870 va rencontrer les idées anarchistes professées par les bakouniniens au sein de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, qui en 1872 va scissionner entre une AIT marxiste et une AIT anarchiste. Hein. Et en tout cas, en 1870, un nommé Fanelli, un ami de Bakounine, va en Espagne, rencontre quelques personnes bien investies dans la réflexion sur, et dans, sur un examen des luttes en cours, et la fusion va se faire immédiatement. En très peu de temps, ces gens-là créent une section internationale espagnole, une FRE, Fédération Régionale Espagnole, qui se crée en 1870 à Barcelone. Là commence ce qu'on appelle le mouvement anarchiste espagnol, qui comprend des ouvriers, quelques intellectuels, des artisans, un peu de tout, beaucoup de cordonniers, on remarque, beaucoup, beaucoup de cordonniers. Et l'axe central de ce mouvement, c'est la Catalogne et l'Andalousie. Un peu le Levant, un peu dans la Castille, mais essentiellement, ça va se déployer dans les deux grosses régions. Et ça veut dire aussi deux sortes de travailleurs, les travailleurs qualifiés des usines barcelonaises ou des artisans ou anciens artisans depuis peu, et en Andalousie essentiellement des ouvriers aussi dans quelques manufactures, mais essentiellement une grande masse d'ouvriers
agricoles,
des braceros, des jornaleros, des gens sans terre, qui vendent leur force de travail tous les jours, un matin, en essayant qu'elle sera achetée, et qui le soir sont rendus eux-mêmes, et ne sachant pas si le lendemain ils travailleront. Et si ces gens-là ont fait une grève ou se sont fait remarquer comme récalcitrants, ben, tous les patronats s'entendent pour retourner aucun boulot et qui crèvent ailleurs. Encore une fois, là, les conditions de travail exécrables. Des conditions de vie exécrables. Et on va voir se déployer aussi deux façons de se battre. En Catalogne, les ouvriers qualifiés empoignent l'arme de la grève assez facilement, assez efficacement, comme en 1855, enfin, quasiment tous les ans, tous les mois de juillet, il y a des émeutes ou des grandes grèves. Et dans les campagnes andalouses, c'est des émeutes populaires très fortes. Là, ils ne peuvent pas agir à visage découvert, donc ils sont obligés d'agir plutôt la nuit, par petits groupes. On attaque les récoltes, les biens des propriétaires, les bâtiments, les récoltes, le bétail. On détruit tout. On exige d'être payé plus, on exige des conditions de travail un peu plus acceptables, ce qui est rarement obtenu d'ailleurs. C'est vraiment les bagarres andalouses sont une suite de luttes, et sans parler des moments où il y a des sécheresses terribles. Alors là, c'est la famine, les gens sont obligés de partir, quoi. Ils ne peuvent plus, c'est l'exode, ils s'en vont aux Amériques, ils s'en vont travailler à Barcelone, ils s'en vont où ils crèvent. Et un nombre incroyable de gens dans les prisons, maltraités, torturés. La Guardia Civile, qui se crée en 1844, est un corps de police ou de gendarmerie impitoyable. C'est des gens qui commencent par tabasser les gens, hommes, femmes et enfants, avant toute chose. Il faut casser les luttes. Il n'y a qu'un mot d'ordre dans ces classes-là, casser les luttes des travailleurs. Donc, quand la Commune de Paris démarre, enfin, ces gens-là, ces anarchistes, ces pré-anarchistes espagnols ont suivi des bagarres en France en 1848, en 1870. Au début, ils en tirent des leçons, comme en 1848, ouais, bon. Ils sont partis de la politique, donc ça ne nous intéresse pas. Et en 1870, même au niveau de la Commune, quand ils abattent la colonne Vendôme, ils sont contents, ils disent « Ah oui, là, ils ont fait fort ». Et après, quand il y a le massacre des communards qui commence, alors là, ils commencent à se dire « Voilà, oui, il faut qu'on intervienne, nous aussi, de notre façon ». Et il y a une grande proclamation qui va être publiée le 4 juin 1871. Je lis un tout petit extrait. Donc par des représentants de la FRE. Classe privilégiée, bienheureux de la terre, avare, insatiable et fainéant. Êtes-vous si aveugle que vous ne voyez pas qu'il est impossible d'en finir avec les défenseurs de la commune sans en finir avec tous les travailleurs du monde? Désormais, tout est déjà légitimé. Entre vous et nous, il ne peut y avoir aucun arrangement. Un abîme de sang, un abîme de crime, une montagne inaccessible d'intolérance nous sépare. C'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui l'avez dit, c'est vous enfin qui l'avez fait. Guerre à mort. Guerre du producteur contre le parasite et l'exploiteur. Guerre entre riches et pauvres. Guerre entre celui qui, sans rien produire, consomme tout, et celui qui, produisant tout, n'a pas de pain à donner à ses enfants. En un mot, les événements de Paris que nous acceptons en ce qui concerne la commune en totalité, sans habile exception d'aucun genre, Ça, il fait allusion aux républicains fédéralistes qui disaient « Ah oui, la commune, c'est bien, mais quand même, ils ont fait des crimes, les communards, donc on n'accepte pas tout. » Ils disent « Non, non, il n'y a pas, on ne fait pas le détail, il n'y a pas de raison. » Sans habile exception d'aucun genre, les événements de Paris sont venus nous prouver que si, un jour, vous nous entraîniez dans la lutte en tant que classe, si eux ont brûlé, si eux ont fusillé et assassiné, nous devrions réduire ces trois moyens à un seul. Nous nous ferions sauter avec les villes et avec vous. En toute confiance et en toute tranquillité, vous pouvez crier « La commune est morte, il ne reste plus aucun de ses partisans. » À ce cri, les millions de travailleurs que nous sommes vous répondront de toutes les régions d'Europe « La commune est morte, vive la commune !»
Oui, c'est une proclamation vraiment très belle et très forte.
Là, puis c'est vraiment la guerre internationale. Ouais, la bourgeoisie fait pareil. Elle s'internationalise, elle commence à internationaliser la vigilance et la répression. Hein, on surveille tous les communards qui s'égayent dans l'Europe. Il y en a beaucoup qui vont en Espagne, qui vont participer au soulèvement d'Alcoy en 73. Et voilà, on se trouve là, un face-à-face, là, une guerre déclarée, il n'y a pas de demi-mesure. Là, la politique, effectivement, est évacuée complètement. C'est la lutte à mort, comme ils disent.
C'est ce qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans toutes les... Après, quand, dans les années 1890, quand tu auras toutes les bombes anarchistes, là, ça va être vraiment... La bourgeoisie va aussi faire une guerre à mort contre les anarchistes et le mouvement social révolutionnaire, quoi.
Oui, à ce moment-là, bon, on y viendra, mais je dirais que plutôt à ce moment-là, le mouvement ouvrier voit que les grèves bien menées, les manifestations qu'ils tentent de faire, etc., mais ils subissent une répression terrifiante. À chaque fois, c'est des morts, des dizaines de morts, etc. Et une partie du mouvement ouvrier reste en creux, ne peut plus mener ses luttes classiquement, et des groupes anarchistes qui se sont constitués, dont on va parler, eux proposent cette stratégie qu'on appelle l'acte, la propagande par le fait, qui a été adoptée par la laïté en 1881 au Congrès de Londres. Donc, il y a deux choses qui se passent au sein de laïté en 1881. Il y a l'adoption, comme tu disais tout à l'heure, on passe du collectivisme au communisme anarchiste, c'est-à-dire la mise en commun de tout, l'appropriation des moyens de production, de la terre, le travail en commun, et tout ce qui est produit est réparti strictement, de manière strictement égalitaire à chacun en fonction uniquement des besoins. C'est-à-dire qu'on en finit avec cette théorie que les collectivistes voulaient conserver, c'est-à-dire chacun reçoit en rapport avec le temps de travail qu'il a effectué. Donc finalement, c'est une sorte de salaire qui donne une valeur au travail produit, cette marchandise travail, marchandise force de travail, est évaluée d'une certaine manière. De cette évaluation, elle sera reconduite évidemment dans la marchandise qui sera vendue. Donc le travailleur recevra, non pas en fonction de ses besoins, tel travailleur recevra en fonction du temps qu'il a travaillé. C'est-à-dire, pour les communistes anarchistes, c'est profondément inégalitaire. Il y a déjà, sans parler du principe théorique, il y a aussi des gens qui travaillent vite et bien, et qui produisent beaucoup, et qui sont tout seuls, et d'autres qui ont une grande famille nombreuse, qui ne travaillent pas forcément très vite. Et ça veut dire que s'il reçoit uniquement en fonction du temps de travail qu'il a donné, ben ça veut dire qu'il va pâtir, forcément. Donc, pour eux, c'est absolument ridicule de continuer encore, même à tenter d'évaluer le temps de travail des hommes. Ils disent, mais c'est absurde. Avec le travail sophistiqué qu'il y a déjà dans les usines de l'époque, qui sont pourtant encore très rudimentaires, on ne voit pas qui pourrait calculer le temps de travail d'un homme. Comment on fait? Et quelle est l'instance qui va même décider ça? Quelle administration va émerger de ça? Quel embryon d'une future bureaucratie va commencer à comptabiliser et comment? Pour eux, il dit, mais donc les Kropotkine, Élisée Reclus, François du Martyret, qui des années 76-80 font émerger cette notion de communisme anarchiste, développent énormément d'argumentaires pour convaincre les collectivistes qu'il faut abandonner cette histoire du à chacun le produit intégral de son travail. Donc là, ça, c'est des débats qu'on va retrouver. Par exemple, au sein des textes de François du Martyret, en 1800, le premier qui émet ce concept de communisme anarchiste, hein, c'est un ancien communard de Lyon, qui s'appelle François du Martyret, dans un pamphlet intitulé « Aux travailleurs manuels, partisans de l'action politique ». Il appelle, je le cite, « On dit souvent que pour supprimer l'État, il faut en faire partie. Comme pour supprimer l'Église, il fallait se faire curé ou évêque. » Le communisme anarchiste sera la vraie liberté économique, car tant qu'il y aura de la propriété individuelle et de l'autorité paternelle, il n'y aura pas de liberté. Ce que nous voulons, c'est la non-propriété de tout ce qui existe, et la liberté de la femme par l'union libre, et que l'enfant soit libre autant des uns que des autres. En un mot, nous ne voulons de bornes à cette liberté qu'autant qu'elle gêne celle d'autrui, et nous formerons une société. Bien entendu, si nous voulons rester seuls, cela est notre droit indiscutable. Travailleurs, ne te laisse plus traîner au scrutin par cette bande de politiqueurs qui te boulangent l'existence. Bon, voilà, c'est pour dire, ces thèses-là vont commencer à être discutées au sein de la FRE, enfin, très très petitement. En réalité, toutes les sections, quasiment toutes les sections de l'AIT adoptent le communisme anarchiste, et paradoxalement, pas l'espagnol. Ça s'introduit petit à petit au fil des années 80 par certains. Le premier, c'est un Andalou qui, lors d'une réunion de la FRE en 82, commence à dire au fait, le communisme anarchiste, on pourrait être en discuter. Mais il voit qu'il y a un barrage assez vite. Les collectivistes se cramponnent à la base antérieure et ne veulent pas. Estiment non. Et c'est marrant, c'est du point de vue, le communisme, c'est l'anéantissement de l'individu, le communisme, on ne peut pas... Ils font une sorte de mélange avec le communisme de Cabé ou le communisme prôné par les marxistes, en disant, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas...
Oui, ils amalgament, quoi.
Nous, les anarchistes, on ne peut pas accepter ça. Il faut que l'individu soit respecté et qu'on redonne à l'individu le produit intégral de son travail, c'est une garantie de ça. C'est marrant parce que c'est du point de vue individualisme contre communisme que la question se débat et non pas en profondeur qu'est-ce que ça veut dire le salariat, pourquoi il ne faut pas en finir avec le salariat. Cette question-là est évacuée et pendant longtemps. Donc elle va être ramenée dans les années 85-86 parce que Kropotkin et les autres soutiennent les quelques petits partisans du communisme libertaire en Espagne, les aident, répercutent leur texte et leur libelle dans le Révolté, le journal des communistes libertaires qui siège en Suisse, mais qui est au moins l'organe de coordination de la propagande anarcho-communiste. Et on va voir émerger petit à petit dans les thèses du communisme anarchiste, qui deviendra communisme libertaire, au sein de petits groupes autonomes d'affinité qui se créent en Catalogne, le quartier de Gracia, au milieu des années 80. Donc c'est tous des gens de la FRE, il n'y a pas de dissociation. On est toujours au sein de la Fédération régionale espagnole. Mais une partie de ces gens-là commence à critiquer deux choses dans la Fédération, parce qu'il faut aussi rappeler une chose dans la chronologie. Je rappelle que j'ai ajouté une chronologie à la fin du bouquin parce qu'il y en a un peu besoin. Il y a beaucoup d'événements, il faut les situer. Et après la grande révolte de l'Alcoy en 1873, la FRE est interdite. Et tout le mouvement ouvrier doit passer la clandestinité. Donc là, de 1873 à 1881, c'est une longue période de clandestinité, très très dure, surtout en Andalousie. Et là, la FRE incite les affiliés à se répartir de manière discrète dans les villes et campagnes, continuer des réunions, agir par petits groupes et à visage découvert. Donc ça va entretenir une pratique que les Andalous, comme je l'avais dit tout à l'heure, avaient déjà, eux, dans leur escarcelle. Et au sortir de la clandestinité en 1881, grand congrès de la FRE, et elle estime que cette tactique-là doit être terminée. Il faut en finir avec ça et revenir à la lutte au visage découvert, c'est une chose, mais au respect de la légalité. Et là, ça a commencé à coincer un petit peu par rapport à un tas d'affiliés qui eux estiment, surtout en Andalousie, que on ne voit pas comment on peut agir dans la légalité. Il n'y a pas de légalité, ça n'a pas de sens. Il y a la loi du propriétaire et du patron et à laquelle on fait face, et la légalité là-dedans, on ne voit pas trop en quoi ça les concerne. Donc là, une dissociation commence, qui était déjà signalée au niveau théorique, collectivisme comme les anarchistes, et la stratégie est adoptée. Donc les ouvriers qualifiés catalans, d'une part, estiment toujours qu'on leur doit le produit intégral de leur travail, et estiment que les luttes qu'ils doivent mener maintenant, pour qu'elles s'expansent, qu'elles prennent, que c'est réellement doivent se faire à visage découvert et dans un certain respect à l'égalité. Et les Andalous et une partie des groupes qui se sont créés en Catalogne estiment que non, c'est pas, sur les deux points, ils divergent.
Et du coup, est-ce que ça a à voir avec le fait que c'est effectivement en Catalogne que va naître le syndicalisme anarchiste et la CNT?
Ah oui, on peut dire que c'est la Catalogne qui reste le domaine de ce qu'on n'appelle pas encore les syndicats à ce moment-là, mais qui, des pré-syndicats, hein, des associations de métiers, des fédérations de métiers. Il y a déjà, les proto-syndicats sont déjà à l'œuvre, hein, et tentent, mais ils font face à une répression terrible. Hein, par exemple, après 1888, les événements de Chicago, etc., dans toute l'Europe, on essaye d'instituer la journée, la grande manifestation du 1er mai. Mais c'est chaque fois avec des pertes effroyables, quoi. Et toujours pareil, les grèves, les conflits sociaux se règlent à la mitrailleuse. C'est très, très dur. Dans les petits groupes qui émergent, et ça, c'est grâce donc, à cet historien de Barcelone qui a beaucoup écrit et mis à disposition tout un matériau sur les premiers groupes anarcho-communistes de Barcelone que j'ai puisé. C'est-à-dire que j'ai puisé tout un historique et toute une histoire qui est visiblement a été laissée un peu sous le boisseau par l'anarchisme lui-même. Donc c'est une histoire qui va recouper la période des attentats anarchistes, comme ça va se passer dans le reste en France, en Russie, en Italie. C'est les années 90, c'est les grandes périodes des attentats. Et lui, il explique bien qu'il a fait ce travail pour bien montrer que tous ces jeunes-là qu'on a amalgamés à du terrorisme, en fait, c'était des gens qui avaient une lutte sociale, qui se parlaient. Ils n'avaient pas empoigné que l'arme, la bombe ou le pistolet. C'est des gens qui essayaient de se battre sur tous les plans et qui, n'y arrivant pas, constatant que le désastre généralisé en était réduit à se défendre coup pour coup. Et donc c'est important de rappeler cette histoire-là qui, effectivement, est un peu oubliée.
Oui, c'est important, effectivement, de rappeler que la violence de ces années-là, parce que, vu qu'on parle de cette période, l'image de l'anarchisme qu'on a généralement, qui est généralement donnée dans le public, c'est les années 1880 et surtout les années 1890 avec les attentats anarchistes, les bombes et tout ça. Et on a l'impression que quand c'est présenté de manière décontextualisée, de manière générale, on a l'impression que les anarchistes sont juste des fous furieux qui posent des bombes au hasard et qui veulent tuer des gens. Effectivement, il y a quelques cas où effectivement ça sort un petit peu de, disons, d'une stratégie de lutte révolutionnaire, mais dans la majorité des cas, c'est une réponse à une violence sociale telle de la part du capitalisme, de l'État et des classes possédantes que quand on respecte la légalité, on se fait torturer, on se fait tuer par les patrons et tout ça, et par la guardia civile. Donc à un moment, forcément, ça incite. Il y a une espèce d'escalade de la violence, mais cette escalade de la violence, elle est avant tout animée par la violence sociale du capitalisme et des classes dominantes. Donc c'est important de recontextualiser tout ça et de recontextualiser cette période qui a été vraiment... et même après, elle a été très critiquée d'ailleurs par les anarchistes eux-mêmes ont dit qu'il y avait eu...
Comme c'est une sorte de moment un peu honteux quand on vient un peu mettre sous le boisseau. Quoi.
C'est ça, alors que en fait... Même si, effectivement, c'est peut-être pas la période la plus glorieuse de l'histoire de l'anarchisme, mais c'est important.
Ça fait partie d'un moment des combats. Il y a une combativité qui continue comme ça, c'est tout, il faut l'avoir. Elle continue comme ça parce qu'en grande partie, elle n'a pas le choix. Et puis après ces mouvements, ces attentats, cette campagne d'attentats, ça va être un chaos complet, quoi. Les gens vont devoir partir. Encore un mouvement d'exode est énorme, hein. C'est des centaines de milliers de gens qui partent, qui quittent le pays, hein. Ils ne peuvent plus tenir, quoi. C'est une désespérance complète, quoi. Jusqu'à la grande insurrection de Barcelone 1909. Mais je voudrais revenir vite fait sur le contenu un petit peu de ces groupes-là. Il faut savoir qu'ils publiaient une presse incroyable. C'est un petit groupe de quartier, un journal. Un journal qui, ils n'ont pas un sou, mais toujours il y a un grand recto verso qui circule, que les enfants vont diffuser dans toute la ville, tous les Athénéos qui accueilleront le texte. C'est tout un... Bon, là, il faut lire le bouquin, parce que ça sera peut-être en septembre là-dessus, mais Fran Fernandez décrit personnellement ces individus, leurs femmes, leurs enfants, comment ça se passe, les moments où ils sont dehors, les moments où ils sont en prison, comment ils réagissent. Et par exemple, la dernière, en 1892, ils essayent encore de tenter de lancer une grande manif du 1er mai, et devant l'arsenal qu'on leur oppose, ils refluent. Ils ne peuvent que distribuer un petit texte. Alors, un des textes diffusés par de ces groupes-là, aux travailleurs de la région espagnole, les anarchistes repoussent toute loi économique, politique ou juridique, qui dépend d'un salaire, quelle que soit sa forme, ne peut se considérer comme un homme libre, ni gouvernement, ni salaire. Il ne s'agit déjà plus de travailler plus ou moins d'heures, et encore moins de recourir à des manifestations pompeuses et rachitiques, mais bien d'une lutte sans quartier, où la classe ouvrière a jusqu'à aujourd'hui porté la charge la plus lourde. Maintenant qu'elle est engagée, on ne peut échapper à ce dilemme. Ou nous nous résignons et nous succombons à la servitude volontaire, ou nous nous rebellons un bon coup contre tant d'outrages, d'injustices et d'ignominies, afin de montrer aux exploiteurs et aux gouvernants que nous ne sommes pas un troupeau de moutons prêts à être tondus. Voilà, c'est des gens même... faut voir ce qu'ils en bavent, hein, dans les conditions de travail, dans leur vie de militance, ils en bavent, vraiment... Ils ont des enfants qui meurent, ils ont des conditions de vie, d'existence terrifiantes, mais ils ne lâchent pas le morceau. C'est ça qu'il faut vraiment souligner, c'est un courage incroyable, quoi. Et la plupart, ils vont mourir en prison, ils vont mourir sous les tortures, ils vont s'exiler. Autre aspect extrêmement intéressant de ce travail de Fran Fernandez, il montre tous les réseaux internationaux de cette mouvance anarcho-communiste. Argentine, Paraguay, Algérie, Cuba... Italie, France. Alors là, la France, avec la France, c'est un réseau permanent de circulation. Et la langue, dans ces journaux, certains ont trois langues, parlent en trois langues, français, espagnol, italien. Et la langue de tous ces internationaux, c'est le français. Donc il montre toute cette mouvance, comment ils évoluent. Quand il y en a un qui est poursuivi par la police, pof, il passe en France, il est accueilli, il va s'exiler un moment en Argentine et il revient. Et ça propage les idées communistes et libertaires. Il faut savoir que la FORA, le syndicat communiste, anarcho-syndicaliste argentin, sera le premier à adopter le programme communiste libertaire internationalement. Donc même avant la CNT. Et comme dit Fran Fernandez, je le cite, « En Espagne, ces propagandistes, ces groupes autonomes, impulsèrent et nourrirent des débats, pratiques et projets qui resteront après eux. Le communisme libertaire, ennemi de toute forme de salariat, les groupes d'affinités, la critique de l'organisation fétichisée. Il reste encore beaucoup d'exemplaires de leur intense fureur éditoriale pour en juger. Ils furent dans l'ensemble opposés au syndicalisme anarchiste, mais parmi les survivants, certains s'affilièrent à la CNT, où ils estimaient que le pouvoir était davantage entre les mains de la base que dans les organisations antérieures. Preuve que les polémiques qu'ils avaient provoquées à l'égard de la FRE avaient été utiles. Ils ont cherché, comme d'autres, un équilibre entre la liberté individuelle et l'action collective dans des structures horizontales. Pour revenir sur l'importance de ces groupes qui, effectivement, au sein de leur organisation, ont commencé à critiquer. Et moi, ce qui me semblait très parlant là-dedans, c'est que j'y vois, ça me permet de mieux comprendre l'origine de ces deux courants de l'anarchisme, effectivement, la tendance syndicaliste, anarcho-syndicaliste, et la tendance groupe libertaire, groupe d'affinité, qui vont plus s'intéresser aux luttes dans les zones rurales, à partir d'un communalisme qui était déjà très profond en Espagne. Et les syndicalistes qui, eux, vont s'intéresser davantage aux luttes sur le lieu de travail, à l'intérieur de l'industrie, et ils vont de plus en plus laisser un peu de côté les luttes rurales. Donc je comprends maintenant mieux déjà ce qui apparaissait dans les années 30, 1930, je le comprends mieux après ce retour un siècle avant, finalement. Et ça me permet aussi de mieux comprendre les enjeux qui vont aussi se poser dans ces années 30, et par qui le communisme libertaire est bien défendu, par qui il l'est moins, etc. Pour revenir à la question du départ.
Oui, ça montre tout l'intérêt d'une histoire longue du mouvement anarchiste et du communisme libertaire, des luttes sociales... des luttes de quartier aussi, on peut dire peut-être un mot.
Ah oui, là, c'est tout le groupe de Gracia, c'est le groupe du quartier de Gracia, hein, c'est un des quartiers ouvriers de Barcelone. Et ça, c'est emblématique, effectivement, de ce processus. Une vie intense de quartier, où on crée des athénées, des écoles rationalistes, des endroits où les gens lisent, écrivent, circulent, où on publie des feuilles, où on peut se planquer avec des endroits dans le quartier, où on peut se planquer quand on est pour chercher par la police, etc. etc. C'est une nuit de quartier qui est vraiment au cœur de la militante, de la lutte, des luttes populaires de Barcelone. Il faut rappeler que Barcelone, c'est l'usine de l'Espagne, la Catalogne, c'est la capitale de l'industrie espagnole, et le quartier du Raval, les quartiers vraiment centraux de Barcelone, sont le cœur des bagarres ouvrières. Et des bagarres ouvrières, c'est-à-dire pas simplement dans l'usine, mais dehors. Et donc toutes les familles entières qui s'en mêlent. C'est ça la force de l'anarchisme en Catalogne, c'est centralement, de mon point de vue. Ça, je renvoie à quelques articles qu'on a mis sur notre site là-dessus pour saluer la sortie du livre au CMDE de Toulouse, un petit livre de Chris Elam, Barcelone contre ses habitants. C'est vraiment des lectures. C'est déjà bien qu'ils aient traduit ça, mais il y a au moins 2-3 bouquins centraux en Espagne qui ne sont pas publiés encore en France. C'est bien dommage.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer, pour donner peut-être une autre actualité, la manière dont sont criminalisés et exotisés les quartiers de Barcelone à cette époque. Donc, puisqu'on parle du barrio chino, donc ça veut dire du quartier chinois, alors qu'il n'y a pas de chinois en fait.
Oui.
Et comme aujourd'hui, on exotise, on dit que voilà, les quartiers sont des zones de non-droit, qui ne sont pas en France et tout ça.
Et il faut rappeler que cette criminalisation de l'anarchisme, dont je l'ai évoqué les premiers moments au XIXe siècle, ça va être une constante, mais vraiment une constante dans tous les ennemis de l'anarchisme en Catalogne. C'est-à-dire que c'est toujours un vieux compte à régler entre la Catalogne et les anarchistes. Et comme en 1870, comme en 1930, on a encore aujourd'hui des textes, des bouquins, des articles, des soi-disant travaux historiques qui veulent démontrer que les anarches sont des criminels et que les pires des criminels, c'est les jeunes dans les Athénéos. Parce que c'est d'eux que viennent ces idées malsaines, ou des idées dissolvantes, comme on disait dans les années 30.
La corruption de la jeunesse.
Voilà. Et là, comme on sait aujourd'hui, hein, à travers les opérations de police, Pandora et compagnie, ils raflent dans les Athénéos. Ils foncent dans les Athénéos, ils raflent tout, ils arrêtent des gens, ils sont toujours en prison actuellement. Des gens en tôle pour un moment, pour un pétard devant un tel bâtiment, devant telle église, quoi.
Ouais, la répression n'a pas
vraiment,
terminé.
Mais vraiment, on a tous les termes utilisés depuis presque un siècle qui sont réitérés. Et actuellement, à Zaragoza o el Charco, que j'en parle en particulier dans un chapitre sur la violence révolutionnaire, je fais l'inventaire de tout l'appareil idéologique pour criminaliser l'anarchisme, notamment en Catalogne. C'est faramineux, quoi. C'est grossier, c'est sans complexe. Et ça entretient, effectivement, tout le temps, ce processus. Et comme en Italie, il y a plein de jeunes anars en prison actuellement pour rien du tout.
Et pour revenir peut-être sur la fin de notre période, puisqu'on a dit qu'on s'arrêterait ici en 1910, peut-être c'est important de rappeler quand même rapidement ce qui s'est passé en Espagne en 1909-1910, parce que c'est quand même quelque chose de très important, ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qu'on a appelé une espèce de semaine sanglante aussi à Barcelone. Est-ce que tu pourrais rappeler ces événements pour conclure?
Oui, c'est ce que j'ai remarqué dans plusieurs livres ou commentateurs de cette époque et après. Ce qu'ils constatent tous, une désespérance phénoménale dans ce pays, après toutes les luttes sociales de la fin du 19e et la campagne d'attentats, etc. Là, c'est vraiment le blackout complet. Tout le monde est un nombre incroyable de gens sont en prison. Ils vont sortir vers 1900, petit à petit. J'en parle un petit peu dans le bouquin. Et il y a un exode rural pire que jamais. Plein de gens foutent le camp du pays, surtout sur les campagnes, mais aussi dans les villes. Des gens, il faut savoir, ils sont mis à l'index, quoi. Il y a des gens qui ne trouveront jamais de travail. Tous les patronats s'entendent pour ne jamais embaucher tel militant, quoi. Donc ils sont obligés soit de changer de nom, travailler comme ça, soit de disparaître à un moment. Donc dans Barcelone, en plus de toute cette plaie, comme tu le sais, il y a des colonies espagnoles, il reste encore des colonies en Espagne. Elle a perdu Cuba en 1898, elle a perdu les États-Unis. il lui reste encore le Maroc, une partie du Rif. Et là, elle continue, l'État espagnol continue à envoyer des jeunes conscrits qui ne peuvent pas payer la somme qu'il faudrait pour échapper à la conscription. Les jeunes bourges, les jeunes fils d'eux le font, évidemment. Et tous les jeunes prolos, ils sont envoyés au casse-pipe. Parce que ces guerres au Maroc sont vraiment très mal menées par des fous furieux. La Légion espagnole, tout, c'est des tueurs, des massacreurs d'indigènes effroyables, quoi. Et c'est des gens, ils provoquent un tel soulèvement populaire que souvent les batailles sont perdues, quoi. Les batailles des Espagnols sont perdues. Et qu'ils s'en foutent royalement, comme c'est des troufions, des prolétaires de Barcelone qui crèvent là-dedans, ils n'ont rien à foutre.
Ils sont bien contents, limite.
Ah ouais, on dirait que vraiment, c'est fait pour aussi écouler du prolo, quoi. Et en 1909, il y a un gros embarquement à Barcelone de conscrits. Et arrive la nouvelle d'une grande bataille massacreuse où il y a des milliers et milliers de jeunes qui sont morts. Et là, la population, ouf, là, c'est le soulèvement général de Barcelone. Là, tous les quartiers, mais là, tous les quartiers populaires dressent, comme on le sait, la barricade. Hein, c'est le premier acte par lequel on commence une émeute, c'est on monte une barricade. Tout le quartier populaire sont hérissés de barricades. La population est dans la rue. Elle se procure des armes. Elle attaque des endroits où elle arrive à se procurer des armes. Une partie même de gens qui sont censés les réprimer passe avec eux. Il y a vraiment une insurrection qui va durer plus d'une semaine. Mais une insurrection qui ne réclame rien de particulier. C'est-à-dire, on n'en peut plus, quoi. Et puis surtout, la seule chose qu'ils veulent, c'est empêcher les gens de partir dans les bateaux. Ça, oui, ils empêchent les bateaux de partir. Mais après, c'est l'explosion de colère, de révolte pure. Donc il n'y a pas... Même les syndicalistes, à cette époque-là, ils essayent de proposer une structure, des réclamations, etc. Mais c'est balayé maintenant. Personne ne veut rien sinon en finir avec ce système pourri. Quoi. Donc ça dure... Bon, on dit qu'il y a eu beaucoup d'églises et de couvents qui ont été attaqués, de fait. Mais il y a eu peu d'usines attaquées. C'était pas une lutte
dans les lieux de travail,
dans et contre le lieu de travail ou le patronat. C'est une explosion d'exaspération énorme, quoi. Par contre, ouais, l'Église prend toujours dans ce cas-là. Elle, très symboliquement, elle prend toujours.
Oui, parce que c'est la défenseuse des classes possédantes.
Mais c'est effectivement celle qui empêche les jeunes d'étudier, c'est celle qui contraint, qui justement elle aussi qui prend la tête des jeunes, qui leur remplit la tête de conneries. C'est qui maintient l'analphabétisme. On lui reproche une grande partie de tout ce dont on souffre.
Et avec raison.
Et à raison.
Et du coup, c'est l'Église, justement, c'est elle qui va exécuter Francisco Ferrer.
Mais pas elle, c'est tout l'establishment qui, justement, pour en revenir, il faut aussi accuser une tête pensante avant tout.
Francisco Théorie Ferrer. Du complot, presque.
Oui, non, mais c'est plus les idées dissolvantes viennent de là. C'est pas ceux qui étaient dans la rue qu'on va. Bien sûr, ils vont exécuter un tas de personnes. Et symboliquement, surtout, tous ceux qui étaient passés du mauvais côté. C'est-à-dire des gens de la police ou de l'armée qui, au lieu de tirer sur les ouvriers, étaient passés de leur côté. Alors ceux-là, on les soigne particulièrement. Il faut symboliquement les exécuter devant tout le monde. Ça ne s'est pas permis. Et après, l'establishment décide de condamner Francisco Ferrer y Guardia d'être l'âme de l'émeute. Il le flingue, le juge, il le flingue en très peu de temps.
Donc, il était le fondateur justement des écoles rationalistes.
Ce qu'on appelle l'école moderne qui s'est développée largement en Espagne et qui va être reprise quand il y aura ça, sans problème.
Et du coup, pour finir, moi j'avais envie de poser une question un peu naïve, mais pourquoi la fondation du coup, de la CNT en 1910, pourquoi ça se fait à ce moment-là?
Ben, petit à petit, avant, en 1907, il y a ce qu'on appelle la Solidaridad Obrera. Organisation qui se crée, qui va ensuite avoir un journal, et un regroupement des partisans du syndicalisme. Pour dire, ces gens-là, ils n'arrêtent jamais. Il y a des moments de creux, mais il y a toujours une partie de gens qui retentent quelque chose. Et là, en ramassant les morceaux, en réprimant un petit peu les souffrances, les afflictions, hop, ils essayent. Donc ils montent ce regroupement de travailleurs, une sorte de pré-syndicat, qui, en 1910, qui ne contient pas que des anarchistes. Hein. Tout ça, c'est inter-mouvement ouvrier. Il y a des socialistes, Parce que l'Ouerté existait déjà depuis 1888, donc tu trouves des éléments socialistes et des républicains dans ce réseau-là. Dans 1910, se crée la Confédération nationale du travail, mais qui n'est pas qu'anarchiste, il faut le savoir.
C'est pour ça que d'ailleurs.
Plus tard, elle n'adopte pas le programme communiste libertaire encore.
C'est après, en 1919.
Pourtant, le deuxième congrès, la CNT, 1919, où il y a une formulation qui indique qu'ils ont un projet, le projet qu'ils adoptent, c'est le communisme libertaire. Et là, et après une très grande grève de la CNT victorieuse qui va vraiment multiplier les adhésions, là, le moment puissant de la CNT commence réellement en 1919.
Ben, on en reparlera justement dans une prochaine émission. Donc, merci Myrtille de nous avoir parlé de ce livre. Donc, je rappelle Les chemins du communisme libertaire en Espagne, 1868-1937. Et là, donc, on parlait du premier volume. Et l'anarchisme devint espagnol, 1868-1910, donc paru aux éditions Divergence.
Et qui va sortir cette semaine.
Et qui sort donc précisément en mai.
En mai.
2017.
Fin mai 2017.
Voilà. Et ben merci Myrti.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.